Bonjour et bienvenue dans cette seconde partie de la formation intitulée « Repenser sa salle de classe et sa pédagogie ». Pour rappel, elle a été scénarisée en 4 modules, encapsulée dans un canot prof. Donc la première section est dédiée aux classes flexibles via un entretien audio et un webinaire vidéo avec Aurélia Onisco et Séverine Walker. La seconde et actuelle partie s'attachera aux classes mutuelles avec le podcast audio que vous êtes en train d'écouter et un webinaire avec le même invité et peut-être d'autres, donc Vincent Fayet. On aura la chance de retrouver aussi quelques témoignages de ses élèves. Le troisième temps sera un webinaire sous forme de table ronde avec ses invités. Et enfin, le quatrième module sera une médiation de ressources autour de ces deux dispositifs que sont classe flexible et classe mutuelle, et sans doute plus largement autour de la forme scolaire et de l'aménagement des espaces. C'est bien ça, Marjorie ?
Oui, c'est bien ça. Et donc, on va passer à la présentation de notre invité du jour. Vincent Fayet, vous êtes professeur agrégé en lycée et doctorant en sciences de l'éducation à l'Université Paris-Descartes. Vous développez une conception de la forme scolaire appelée classe mutuelle. Et nous allons bien entendu y revenir en détail maintenant. Vous êtes l'auteur de 2 ouvrages sur ces questions. Le premier ouvrage que vous avez publié, c'est « La métamorphose de l'école quand les élèves font la classe ». Dans une seconde édition, bientôt revue et augmentée, qui va sortir très prochainement. Et nous nous sommes laissés dire que, d'ailleurs, on allait y retrouver de nombreux sketchnotes d'Anne-Cécile Calaijon, qui a déjà illustré en partie votre second ouvrage, « Remodeler sa salle de classe et sa pédagogie, des idées pour faire évoluer la forme scolaire », qui a été publié aux éditions Réseau Canopé en 2019. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Alors Vincent Fayet, on va commencer par un bref sommaire de cet entretien qui se déclinera autour de 4 thématiques. On commencera bien sûr par la forme scolaire, on embrayera sur les fondamentaux de la classe mutuelle, en un troisième temps autour de classe mutuelle hybridée, si on peut dire, en ces temps de téléenseignement, et on terminera par une dernière partie sur les outils et méthodes pour favoriser la collaboration entre élèves. Donc pour introduire justement la première thématique autour de la forme scolaire, je propose qu'on se lance tout de suite. Vincent, est-ce que vous pourriez brosser brièvement une définition et peut-être un rapide panorama historique de ce qu'est la forme scolaire ?
Oui, alors la forme scolaire, c'est une notion qui est déjà ancienne puisqu'elle a été proposée dans les années 1980 par Guy Vincent. Guy Vincent qui était sociologue et philosophe. Et il a défini la forme scolaire comme étant une relation pédagogique, qui va instaurer 3 items, un temps dédié, ça va être le temps scolaire, le temps de la leçon, le temps de la récréation, le temps de la demi-pension, un espace spécifique, la salle de classe, la cour, le réfectoire, le CDI, et des règles qui prévalent dans cet espace et au cours de ce temps. Et aujourd'hui, les règles que nous connaissons de la forme scolaire, elles sont basées sur le silence et l'immobilité pour ce qui est du temps de classe. Et Guy Vincent nous explique très bien que cette forme scolaire, finalement, elle est très ancienne. Elle remonte au XVIIe siècle, selon des principes d'enseignement simultané qui ont été promue par Jean-Baptiste de La Salle avec son Institut des Frères des Écoles Chrétiennes. C'est quand même 1680.
Est-ce que, pour le coup, vous pourriez alors situer là, dans ce panorama la méthode individuelle, la méthode simultanée et plus précisément l'enseignement mutuel ?
Oui, alors il faut bien comprendre qu'au cours du temps, en fait, il y a eu plusieurs types de méthodes pédagogiques qui d'ailleurs ont pu se chevaucher les unes les autres. Quand Jean-Baptiste de La Salle est intervenu avec les Frères des Écoles Chrétiennes, la méthode pédagogique qui avait cours à ce moment-là et qui était la plus répandue, c'est, comme vous l'avez cité, en effet la méthode individuelle. La méthode individuelle, elle était basée sur le principe du préceptorat, c'est-à-dire que l'on avait un enseignant qui d'ailleurs n'était absolument pas formé à enseigner, il avait de multiples métiers, il recevait les élèves de la commune dans une maison, ce qu'on appelait une maison d'école, et il leur faisait un cours de façon individuelle. C'est-à-dire qu'il y avait par exemple 15, 20, 30 élèves qui étaient dans cet espace, des élèves d'âge et de niveaux différents, et bien le maître appelait un élève après l'autre à son bureau pour lui faire une leçon, et puis après l'élève retournait à sa place. Donc c'est quelque chose qui bien évidemment ne fonctionnait pas. Et quand Jean-Baptiste de la Salle est arrivé, il a laissé de côté quelque part cette méthode individuelle pour la méthode simultanée. Et la méthode simultanée est une méthode pédagogique qui a fait des merveilles, puisqu'il a considéré que dorénavant, les élèves devaient, pour suivre un même cours, avoir le même âge et donc supposément le même niveau. Et donc il a aligné les élèves face au prof, à l'enseignant, au maître qui faisait son cours. Le 19e siècle, pour moi, est le siècle où tout s'est joué, puisqu'au cours du 19e siècle, on avait trois types d'enseignement. L'enseignement individuel, qui était au début du 19e siècle le plus répandu encore. L'enseignement simultané de Jean-Baptiste de La Salle. Et un troisième enseignement qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'enseignement mutuel. L'enseignement mutuel, il est basé sur des principes relativement différents de ce qu'est l'enseignement simultané, puisque dans l'enseignement mutuel, il n'y a pas un maître qui va faire un cours, mais il y a des élèves qui vont s'expliquer le cours mutuellement entre eux. Et donc il va y avoir une guerre scolaire entre ces trois enseignements, et il n'en subsistera qu'un, et celui qui subsistera, c'est l'enseignement simultané.
Alors merci Vincent pour ces précisions historiques. Alors justement, en parlant de contextualisation historique, moi j'ai envie de vous questionner un petit peu à partir de la vision de l'éducation d'Émile Durkheim, le sociologue français que vous connaissez, et dans son ouvrage « Éducation et sociologie ». Durkheim nous dit en fait « Chaque société, considérée à un moment déterminé de son développement, a un système d'éducation qui s'impose aux individus avec une force généralement irrésistible ». Et il poursuit, il est vain de croire que nous pouvons élever nos enfants comme nous le voulons, il y a des coutumes auxquelles nous sommes tenus de nous conformer, et si nous y dérogeons trop gravement, elles se vengent sur nos enfants. Et un peu plus loin, il nous dit, il y a donc à chaque moment du temps un type régulateur d'éducation dont nous ne pouvons pas nous écarter sans nous heurter à de vives résistances qui contiennent les velléités de dissidence. Alors ça me fait un petit peu penser à ce que vous venez de nous expliquer sur les combats un petit peu de type d'enseignement individuel, simultané, enseignement mutuel, avec un qui gagne par rapport à d'autres. Et justement, je me demandais le contexte actuel. En ce moment, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre un changement de paradigme au niveau éducatif, comme en témoigne un petit peu l'intérêt actuel, comme là on peut voir qu'il y a un nombre quand même relativement important de personnes, d'enseignants ou même de parents qui sont intéressés par le parcours de formation qu'on propose autour de ces questions-là. Est-ce que pour vous, on a en ce moment quelque chose qui est en train de se jouer autour de l'enseignement mutuel de ce point de vue-là ?
Alors, je ne sais pas si les coutumes se vengent sur nos enfants, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une force irrésistible. Et que cette force, elle a fait que les méthodes pédagogiques n'ont pas évolué pendant très longtemps. Ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas bon pour une méthode pédagogique d'être trop en avance sur son temps. Et je pense que le combat dont je vous parlais précédemment, il s'est joué dans les années 1830-1833, je pense que la méthode mutuelle, la méthode d'enseignement mutuel, était bien trop en avance sur son temps, laisser la charge pour partie d'enseignement à des enfants, c'était quelque chose de difficilement concevable finalement à l'époque. Et souvent je le dis, si moi-même j'avais été enseignant en 1830, est-ce que j'aurais laissé cette charge d'enseignement à des enfants ? Nous sommes dans une époque, en 1833, où c'est la toute-puissance du maître, c'est lui qui a la connaissance, c'est lui qui a l'information, qui a les savoirs, et donc l'enseignement est dirigé vers le maître. Ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est que le monde, par bien des aspects, a changé. L'information, le savoir même, aujourd'hui est accessible partout et pour tous. Michel Serres l'a bien expliqué dans Petite Poussette. Et du coup, l'école ne peut plus, comme elle l'a souvent et longtemps été, être une simple pourvoyeuse de savoir. Donc elle doit se renouveler. Ce qui provoque aussi ce changement, je pense, c'est le monde de l'entreprise. Le monde de l'entreprise est attentif à un certain nombre de compétences qui, à mon sens, devraient être mises en valeur à l'école et dont l'école ne parle pas nécessairement. Je pense de la citoyenneté, aux compétences liées au TICE, aux habiletés sociales, aux communications. Il y a des études qui ont montré que ces compétences-là devaient être les compétences du XXIe siècle. Et on a encore un petit peu de mal à les faire rentrer de façon pleine et entière à l'école.
D'accord. Donc, en fait, là, ce que vous nous dites, c'est que, historiquement, étant donné qu'on est dans une société avec des normes et des valeurs qui ont changé par rapport à l'avènement de l'enseignement simultané, on serait peut-être dans le bon moment, c'est-à-dire dans celui dont parle Durkheim, que j'ai évoqué un petit peu plus haut, qui annoncerait de nouveaux besoins en termes d'éducation pour coller justement à la société dans laquelle on se trouve actuellement.
Oui, je pense que d'un point de vue technologique, d'un point de vue sociétal, c'est le moment d'un enseignement basé sur l'enseignement mutuel, mais on pourrait parler de coopération, de collaboration. Le frontal, même s'il a des bénéfices indéniables, mériterait de laisser un petit peu la place au processus collaboratif et coopératif.
Alors, je vous propose qu'on n'aille pas plus loin dans ce débat qui pourrait nous emmener fort loin selon les tendances qu'on peut avoir plutôt pédagogiques ou plutôt républicains, hein, pour citer c'est un petit peu ces deux chapelles presque, on pourrait dire. J'aimerais qu'on entre dans le vif du sujet de la classe mutuelle. Dans le tout récent précis d'ingénierie pédagogique qu'ont sorti André Tricot et Manuel Musial, ils développent ce qu'ils nomment la théorie des trois actes. Donc, en trois temps, il y a la théorie de l'acte d'apprendre à l'école. Ils précisent bien à l'école parce qu'ils font vraiment le distinguo entre l'apprentissage à l'école et l'apprentissage dans la vie. La théorie de l'acte d'enseigner et, pour ce qui nous concerne, la théorie de l'acte de concevoir un acte d'enseigner pour favoriser un acte d'apprendre. Dit comme ça, dans les mots de la recherche, on n'est pas loin de l'inception, hein, mais En bon enseignant, on comprend bien ce qu'il y a là derrière. Donc, plus sérieusement, ces trois axes, ils sont forcément enchâssés l'un dans l'autre et très fortement interdépendants. Sous cette loupe très concrète, est-ce que, Vincent, vous pourriez nous donner un exemple de conception d'une séance de classe mutuelle, donc en gros, hein, la théorie de l'acte d'enseigner, pour faire découvrir à ceux qui nous écoutent ce que seraient les fondamentaux opérationnels d'une séance de classe mutuelle ?
Oui, alors, même une loupe un petit peu plus grossissante que simplement la théorie de l'acte d'enseigner, pour faire simple. D'un point de vue historique, on a trois grands modes. Je les ai évoqués en introduction. Le mode individuel, qui a des avantages. Le mode simultané, qui a des avantages. Et le mode mutuel, qui aussi a des avantages. L'idée de la classe mutuelle, c'est de réserver quelque part un temps dédié à chacun de ces modes. Ma façon de concevoir la classe mutuelle est la suivante. J'ai toujours un premier temps qui est un temps magistral. Donc là, on est clairement dans l'enseignement simultané. Ce temps magistral, il est important. C'est Flitmérieux qui dit que la parole du maître est importante parce qu'elle institue. Et les élèves sont demandeurs d'un temps descendant où le maître va expliquer à chacun des élèves, notamment les bons élèves sont très demandeurs de ces temps-là. Donc, ce premier temps, c'est un temps de cours simultané, magistral, qui va durer 10-15 minutes, pas plus. Puis vient un second temps, qui est le temps mutuel. Une fois que les élèves ont écouté le cours, l'ont annoté, je vais les laisser en liberté relative de s'expliquer des éléments de cours, de faire des exercices que je donne. Et donc là, on est dans de l'enseignement mutuel, mais aussi on est dans de l'enseignement individuel, parce que comme les élèves sont en activité entre eux, cela me libère du temps et la possibilité de m'occuper plus spécifiquement des élèves qui seraient, quant à eux, un petit peu plus en difficulté. Donc ça, c'est la partie mutuelle. Et puis arrive ensuite une troisième partie, qui est la synthèse, en fait, au cours de laquelle nous faisons un petit peu le bilan de tout ce qui a été vu pendant le cours. Et notamment, on corrige les tableaux que je n'ai pas évoqués, mais lors de la partie mutuelle, les élèves écrivent très souvent sur de nombreux tableaux qui composent les murs, et on corrige ces tableaux au moment de la phase bilan. Donc on a trois temps, et ces trois temps mettent en lumière les trois pédagogies qui sont historiquement les plus connues.
Merci Vincent pour ces précisions concrètes de comment se passe un cours avec vous. J'ai aussi une autre question concrète pour faire le lien avec tout ça. Comment est-ce que les parents de vos élèves voient cet enseignement dans le contexte du lycée ? Parce qu'on l'a dit, vous êtes enseignant en lycée, et donc avec cette perspective de l'épreuve terminale du baccalauréat. Est-ce qu'il y a une nécessité pour vous de leur expliquer les choses, de les rassurer, ou pas du tout ?
Alors, très honnêtement, quand j'ai commencé la classe mutuelle en 2015 au lycée d'Orient, je n'ai pas prévenu les parents, je n'y ai pas pensé, parce qu'en fait les choses sont faites de façon extrêmement progressive. On a d'abord bougé les tables, puis on a commencé à écrire sur les murs, puis les élèves ont commencé à s'expliquer. Aujourd'hui, bien évidemment, il faut expliquer aux parents, et en règle générale, ils le comprennent, et bien souvent, les élèves sont ceux qui expliquent encore le mieux la méthode. Ce que voient les parents, c'est l'intérêt qu'ont les élèves pour cette méthode. Et même s'il peut arriver que quelques parents au début soient rétifs, et c'est tout à fait naturel et normal, très rapidement ils se rendent compte que par bien des aspects, leurs enfants retrouvent le plaisir d'apprendre. Et ça pour moi c'est le plus important.
Alors justement, on parle de plaisir d'apprendre et on parle d'élèves. Je vous propose qu'on passe une première série de capsules. On l'a dit en début d'enregistrement. Donc on a trois de vos élèves, Vincent, qui ont joué le jeu de répondre à une série de questions. Donc on les remercie par avance. Samantha, Kian et Elisa. On s'écoute ça et on rebondit derrière.
Pour moi, la classe virtuelle, c'est tout d'abord un échange entre les élèves et le prof. On a d'abord le prof qui nous explique le cours, puis nous, on passe sur les tableaux et on fait des exercices en petits groupes. Et souvent, on s'entraide entre chaque groupe, on passe de tableau en tableau pour voir ce que les élèves font. Et ça nous permet de voir d'autres choses, d'autres méthodes. Il y en a qui font des cartes mentales, d'autres qui font des schémas, d'autres qui écrivent. Donc, on voit plusieurs méthodes. Et pour moi, la classe mutuelle, c'est vraiment une cohésion de groupe. On retrouve vraiment un esprit d'équipe, en fait.
Alors, pour moi, la classe mutuelle, au premier abord, je pensais que c'était encore un de ces concepts créés par les professeurs pour leur permettre de rien faire et de faire croire aux élèves qui travaillaient en suivant un cours. Mais je me suis vraiment rendu compte que c'était plus que ça. C'est vraiment permettre aux élèves d'acquérir des aptitudes comme le fait de collaborer avec ses camarades ou le fait de ne plus être dépendant des professeurs en cherchant par soi-même et de fait de ne plus être bloqué dès qu'il y a une impasse. Et vraiment, c'est toute une ambiance mise par le professeur qui donne une nouvelle version de la classe et la classe mutuelle. C'est vraiment la nouvelle classe et la classe qui est au goût du jour avec tout ce qui est digital, numérique. C'est vraiment un concept qui est dans l'air du temps.
Quand on est en classe mutuelle, notre professeur nous donne un exercice à faire, une manuelle par exemple. Et nous, en fait, on va se rassembler sur des tables qui sont faites exprès, des grandes tables, ou alors autour de tableaux qui sont installés dans la classe. Et en fait, on va résoudre cet exercice-là. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, on peut aller de groupe en groupe pour s'entraider. Comme ça, c'est les élèves qui s'expliquent les uns aux autres avec leurs propres mots. Et du coup, la communication est peut-être un peu plus facile et on comprend mieux. Et voilà, on est plus libre et c'est vraiment génial.
Dans ces témoignages d'élèves, il y a plusieurs choses, en tout cas moi, qui me frappent. C'est, il peut y avoir parfois un a priori, se dire, hein, c'est assez rigolo, même on peut dire, de Kian qui dit qu'est-ce que c'est qu'encore au départ ce concept fumeux où on va m'entraîner dans quelque chose. Et puis très vite, on les sent amener sur le terrain, on en parlera un peu plus loin, de la coopération, de la collaboration. Et surtout, on sent dans leurs mots un certain plaisir d'apprendre. Donc, je trouve que de ce côté-là, en tout cas, ça répond à ce que peut-être à vos attentes, Vincent, auprès des élèves.
Oui, quand on entend ces élèves qui disent « c'est génial, on va pouvoir bouger, on va pouvoir s'expliquer », il y a une forte demande Il y a une forte demande des élèves. La classe mutuelle, si moi je vais la résumer, je dirais que c'est de l'émancipation. L'enseignement mutuel est émancipateur, et d'ailleurs c'est ce qui a posé sa perte. L'émancipation, lorsqu'elle arrive trop tôt dans l'histoire, n'est pas nécessairement bien vue. Et donc pour émanciper, il faut que de l'autre côté, l'enseignant lâche prise. Et ça, c'est le plus difficile, c'est arriver à lâcher prise pour que les élèves puissent s'émanciper. Et donc là, ils découvrent le plaisir d'apprendre, le plaisir de circuler, de bouger, de s'expliquer, de se tromper aussi. C'est vraiment une autre façon de concevoir l'enseignement.
Merci Vincent pour ces précisions par rapport à ce qui se passe dans votre classe avec vos élèves et au niveau des relations entre eux. Ça nous amène à la thématique suivante que nous souhaitions aborder. C'est la classe mutuelle en période de continuité pédagogique ou dans un cadre un peu plus hybride, présentiel, distanciel. Donc on a vécu là des semaines de confinement et d'école à la maison. Et ce que j'aurais aimé savoir, c'était quelles ont été les adaptations qui ont été nécessaires pour vous, côté enseignant, pour passer de la classe mutuelle en présence à la classe mutuelle à distance. Est-ce que ça a été possible dès le début ou pas? Et est-ce qu'il y a eu un besoin de la part des élèves de recréer ce travail de groupe qu'ils avaient visiblement là dans ce qu'on entend de ce qu'ils nous ont fait part, vos élèves? C'est quelque chose qui leur plaît énormément et pour lesquels ils sont vraiment très en demande. Donc comment est-ce que ça s'est passé à distance?
Ça s'est passé très très bien et très rapidement. Et j'ai presque envie de dire qu'il est beaucoup plus facile de faire de l'enseignement mutuel à distance que de faire de l'enseignement magistral. Concrètement, dans ma pratique, j'ai testé plusieurs solutions. J'ai commencé avec la solution proposée par le CNED. Au cours du confinement, j'ai été amené en tester d'autres. Et finalement, on s'est arrêté avec les élèves sur une solution. Alors, je ne sais pas si je peux le citer là, mais au pire, vous mettrez un petit bip. Hein. On a été sur... Donc, du coup, s'il y a un bip et que vous voulez savoir sur quoi on a été, il faudra assister à la conférence en ligne, parce que là, vous ne pourrez pas mettre de bip à ce moment-là. On verra. Mais en tout cas, le principe, il est simple. Et ça s'est fait naturellement. J'ai tout de suite compris qu'il ne fallait pas que l'on parte sur les principes horaires de ce qu'était l'enseignement en présentiel. J'avais moins de temps avec mes élèves, mais j'avais un temps beaucoup plus riche. Ce qui m'a semblé être essentiel, c'est de donner du rythme à la façon d'enseigner. Donc, on se retrouvait sur... un support numérique, je reprenais les habitudes de l'enseignement mutuel, c'est-à-dire que je commençais par une partie de cours, mais très rapide, quelques minutes, et puis une fois cette partie de cours faite, je dispatchais, et je le fais encore, je dispatche les élèves dans des salles virtuelles. Alors, en fonction du nombre, 4 ou 5 élèves. Et donc là, ils sont ensemble et ils vont pouvoir travailler, s'expliquer le cours de façon mutuelle, faire des exercices. Le numérique nous apporte des possibilités énormes. Partage d'écran, tableau virtuel, les élèves travaillent. Et puis après, on repasse au bout de quelques minutes, 10 minutes, on repasse en plénière. Et là, on corrige, les élèves peuvent présenter ce qu'ils ont fait avec des captures d'écran. Et on fait plusieurs cycles comme ça, en donnant du mouvement. Donc ça s'est très, très bien passé. Et naturellement, vous me posez la question de savoir s'ils avaient eu besoin de recréer le groupe. D'eux-mêmes, mes élèves de terminale dont il est question dans les interviews, ont d'eux-mêmes créé un groupe classe sous Discord. Et là, il y a un bip, mais alors là... Là, moi, j'y suis pour rien hein, sur Discord. Mais je suis quand même allé voir. Et ils ont recréé la salle B304, la salle B305, un espace pour poser des documents, un espace qu'ils ont appelé Café Clope, excusez-moi, pour discuter. Mais c'est pour vous montrer que quand je parlais tout à l'heure d'émancipation, là on a de l'émancipation. Parce que là les élèves prennent en main leur enseignement. Et donc je pense que l'enseignement mutuel en présentiel a favorisé l'enseignement mutuel en distanciel. Il y a quelques jours sur Twitter, une collègue m'interpellait, me demandait si, selon moi, le fait qu'ils aient été habitués à la classe mutuelle a facilité ce passage au numérique. Je pense que oui, même si, à mon avis, ce n'est pas nécessairement un préalable. Donc la classe mutuelle à distance, ça marche très très bien.
Bon, ça c'est la parole de l'enseignant, et vous avez compris que ce qui compte, c'est la parole de l'élève. Donc on va vous repassez une série de capsules enregistrées avec ces trois mêmes élèves, Samantha, Elisa et Kian, pour voir ce qu'eux en pensent concrètement.
La classe mutuelle à la maison, c'est compliqué parce que déjà, on n'a que des cours avec M. Fayet en SVT. Sinon, c'est souvent des cours normaux. Le prof, il écrit sur son tableau et nous, on recopie le cours ou les exercices. C'est compliqué, mais en revanche, avec M. Fayet, on est sur l'application Zoom et il nous a fait des petits groupes où on pouvait travailler ensemble sur un sujet. Donc, on discute, on cherche, on se documente parce qu'on est à la maison, donc on peut regarder nos classeurs, etc. Et franchement, c'est bien. Enfin, en tout cas, je ne trouve pas de différence entre les cours d'SVT en cours et les cours d'SVT à la maison, parce que c'est toujours le même principe, donc c'est vraiment cool.
Je pense que le fait d'avoir acquéri la méthodologie de la classe mutuelle avant le confinement, ça nous a permis de bien pouvoir travailler pendant cette période, parce qu'on n'est pas dépendant du professeur. Le professeur ne peut pas répondre à 30 élèves, chacun son tour, au cas par cas, et du coup c'est beaucoup plus simple pour nous d'être indépendant du professeur et de pouvoir collaborer entre camarades, de faire des groupes pour parler, pour s'expliquer des choses que certaines personnes n'ont pas compris. Et je pense donc qu'on est plus apte à aller chercher les informations par nous-mêmes, que ce soit des articles sur Internet ou des vidéos sur YouTube, au lieu de tout le temps demander au professeur. Et ce qui, je pense, aurait rendu les choses beaucoup plus compliquées. On aurait démotivé plus d'un du travail. Et là, je pense que vraiment, cette méthodologie, dès que j'ai besoin d'une réponse, je vais demander à un camarade et je lis directement ou je pense à aller chercher par moi-même. Et ça change tout. Et je pense vraiment que sans cette méthodologie, j'aurais arrêté de travailler pendant ce confinement comme beaucoup d'élèves.
Alors, la classe mutuelle à la maison, c'est très différent, forcément. Mais on arrive quand même à fonctionner et on fait le cours par Zoom. Donc, c'est comme Skype, mais on peut être beaucoup plus. Et en fait, comme en classe mutuelle, le professeur commence par nous lire le cours et on pose des questions si on en a. Et ensuite, on corrige les exercices ou les QCM. Et donc, on se porte volontaire ou alors il nous interroge. Et c'est très différent qu'en classe normale parce que forcément, il y a beaucoup moins d'échanges entre chaque élève. Mais ça reste correct. Parce qu'on arrive à bien comprendre le cours grâce aux QCM, aux exercices. Donc ça va. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu triste de plus voir tout le monde en face, de pouvoir parler comme avant, d'échanger, d'être... Voilà, c'est beaucoup moins naturel, mais bon, on fait avec. Et puis, personnellement, j'ai hâte de reprendre les cours pour voir tout le monde et pour reprendre ces cours-là.
Alors effectivement, Vincent, ce qu'on entend là de ce que disent vos élèves, c'est que... l'enseignement mutuel, c'est vraiment apprendre ensemble. Et que ce soit en présence ou à distance, c'est ça qui les motive, apprendre ensemble. On a un élève qui nous dit, mais moi j'aurais décroché, si, comme beaucoup d'autres élèves, peut-être dans d'autres cours, si on n'avait pas ce apprendre ensemble. Donc c'est peut-être le premier élément, moi, qui me vient en entendant vos élèves. Et puis le deuxième aspect, c'est que oui, en enseignement mutuel, on apprend ensemble, mais l'élève, à la fin, qu'on entend, là, nous dit « je suis quand même pressée de retrouver quand même tout le monde en présence pour de vrai ». C'est-à-dire qu'on apprend ensemble, à distance, mais voilà, en présence, c'est quand même un peu différent. C'est peut-être encore plus fort, le travail ensemble, quand ils sont dans la même salle. Il y a peut-être cette émulation qu'on sent moins à distance. Je ne sais pas, vous pouvez peut-être nous éclairer là-dessus.
Oui, alors je vais citer Philippe Carré, on apprend seul, mais jamais sans les autres. Et vous avez cité le mot important, c'est émulation. Bien évidemment, chaque élève est différent et chaque élève est une ressource. Et jusqu'alors, jusqu'à ce que je redécouvre cet enseignement mutuel pour ma pratique pédagogique, mais je me privais de cette richesse des élèves. Aujourd'hui, avec l'enseignement mutuel, je me rends compte que j'ai à ma disposition toute une série de compétences, de connaissances, qui d'ailleurs, pour certaines, ne sont pas valorisées par l'éducation. Je pense à une élève qui un jour m'a fait une maquette extraordinaire pour expliquer un point relativement complexe en géologie. Elle l'a fait pour ses camarades, elle a passé le week-end à faire cette maquette. Cette maquette, elle est vraiment exceptionnelle. Donc ça, c'est une compétence qui n'aurait pas été valorisée dans l'enseignement traditionnel. Et là, elle s'est mise en avant. Donc oui, c'est l'esprit de groupe. Les élèves en ont parlé. C'est un élément qui est essentiel pour les élèves parce qu'il fait partie aussi de leur culture. Et travailler ensemble est un des points clés de cette méthode mutuelle.
Dans votre témoignage, Vincent, ainsi que dans le témoignage des élèves, on sent hein, toute l'émulation, comme disait Marjorie, et tout l'entraînement que ça peut créer au niveau de la classe entre élèves et avec l'enseignant. Évidemment, l'idée, là ce n'est pas de dire que l'enseignement mutuel, c'est une solution, c'est la panacée. Donc forcément, on a posé une autre question aux élèves. On leur a demandé les points forts, mais aussi les contraintes qu'ils peuvent voir dans la classe mutuelle par rapport à d'autres formes d'apprentissage. Je vous propose qu'on les écoute.
Ouais, je vais commencer par les inconvénients de la classe mutuelle. Il y a beaucoup, beaucoup trop de bruit souvent parce qu'on est en petit groupe, donc on parle et on ne se rend pas forcément compte du bruit qu'on fait. Les classes ne sont pas souvent bien insonorisées, donc c'est compliqué. Et puis oui, on est dans notre bulle, on travaille, donc on ne se rend pas compte. Mais nous, on a trouvé des petites techniques qui nous permettent de réduire le bruit, donc c'est sympathique. Et les points forts, c'est surtout l'entraide. On s'entraide beaucoup, on l'a remarqué surtout cette année, où même en dehors des cours, on restait 1 heure, 2 heures au lycée, en permanence, pour s'entraider lorsqu'on avait des contrôles, quand on ne comprenait pas, etc. Donc vraiment, la classe mutuelle, ça nous a permis d'avoir une vraie entraide dans la classe, que ce soit en maths, en physique-chimie, en SVT. Donc c'est vraiment bien. On comprend souvent mieux quand c'est les élèves qui nous expliquent aussi, car c'est avec des mots plus simples. Et voilà.
Un des points forts de la classe mutuelle, c'est vraiment de ne pas être passif, de ne pas rester toute la journée assis sur une chaise, à rien faire, à écouter un professeur et juste écrire sur une feuille. Vraiment, on peut se déplacer, aller écrire sur des tableaux, aller travailler avec ses camarades, faire un peu ce qu'on veut, tout en travaillant. Et ça met vraiment une bonne ambiance qui, si elle est bien respectée, permet vraiment de bien apprendre et donne envie. Par contre, si les élèves ne sont pas disciplinés et commencent à faire n'importe quoi, là, tout de suite, l'ambiance est détruite pour tous les élèves, comme tout le monde peut se déplacer et parler à peu près à qui il veut en travaillant. Si certains élèves commencent à ne pas travailler, là, ça commence à devenir une contrainte et il faut vraiment que le prof gère bien les élèves et que les élèves soient assez réceptifs, sinon ça devient très vite compliqué.
Les points forts de la classe mutuelle, je crois qu'on est une classe très soudée par rapport à d'autres classes en cours traditionnel parce que on s'entraide, on échange beaucoup. Aussi qu'on a une très très bonne relation avec notre prof, donc M. Fayet, et il est super cool de nous faire confiance avec ça parce que ça mène à bien. On arrive aussi à beaucoup mieux incorporer le cours et à le comprendre que dans les autres classes traditionnelles parce que on s'exerce beaucoup et on s'aide, et donc en fait on comprend mieux parce qu'on s'explique les uns aux autres. Et pour les points faibles, ce serait le bruit. Mais ça, c'est plus particulièrement au début parce que on n'arrive pas à être discipliné. Peut-être que quand c'est tout nouveau, on ne comprend pas trop le concept, on est un peu confus. Mais au fur et à mesure, avec le gain de maturité, avec tout ça, on fait moins de bruit. Mais c'est vraiment avec le temps qu'on arrive à être plus discipliné, c'est vrai.
Alors, on entend plein de choses dans ces témoignages des élèves. Hein. J'aimerais qu'on reste sur le témoignage des élèves sans rebondir. On a des choses sur l'aménagement de classe, on a des choses sur la gestion du bruit. J'aimerais vraiment qu'on se garde ça pour le webinaire. Donc, ça jouera aussi un rôle.
Sur le fait aussi que je suis super cool.
Voilà, ça on va le garder au montage. Non, mais qu'on se garde tout ça pour rebondir sur le format webinaire pour enchaîner, parce que c'est aussi des thèmes qui ont été évoqués sur la thématique 4, les outils et méthodes pour favoriser justement la collaboration entre élèves. Peut-être commencer par Sylvain Connac. Alors vous le savez, vous le connaissez bien, il travaille autour de ces questions et il distingue 4 déclinaisons de la coopération-collaboration que sont l'aide, le tutorat, l'entraide et le travail de groupe. Et chacune de ces formalités tire plus ou moins du côté de la collaboration pour les travaux individuels coordonnés, par exemple, ou du côté de la coopération pour l'aide et le tutorat. Et au croisement des deux, quelque part, l'entraide et le travail de groupe. Alors justement, dans les pratiques de classe mutuelle, ou plutôt les pratiques de classe mutuelle, elles se situeraient de quel côté, Vincent, si tant est qu'elles penchent d'un côté ou de l'autre?
Alors, oui, les pratiques pencheront en fonction de ce que veut l'enseignant, parce que c'est lui qui décide, ou ce que veulent les élèves, parce que aussi ce sont eux qui peuvent décider. Collaboration, coopération, la collaboration, alors il faut faire la distinction entre les deux. Moi, dans ma vision des choses, la collaboration, c'est on a les mêmes tâches et un même objectif, donc tout le monde fait la même chose en même temps. La coopération, on va avoir différentes tâches, donc ça va être une spécialisation et un même objectif. La spécialisation, derrière, il y a l'idée d'interdépendance positive, c'est-à-dire que si un des rouages ne fonctionne pas, eh bien, l'objectif final ne pourra pas être atteint. Donc, il y a plusieurs définitions de collaboration, coopération. Peu importe, l'enseignant peut très bien décider de faire des activités collaboratives, ou alors des activités coopératives. Si la consigne est un petit peu plus floue, les élèves aussi, sur par exemple un exercice qui peut être donné, eh bien, vont pouvoir collaborer, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent tous en même temps à l'exercice, et puis à côté vous allez avoir un tableau où sur le même exercice, les élèves vont coopérer, c'est-à-dire qu'ils vont se répartir des tâches bien spécifiques qui, mises bout à bout, vont permettre de résoudre l'exercice. Ils ne savent pas qu'ils coopèrent. Les autres à côté ne savent pas qu'ils collaborent, de la même façon que M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Peu importe, l'essentiel, c'est que l'on utilise des outils qui peuvent être variables et qui permettent de progresser.
Alors, merci Vincent pour ces précisions, effectivement, sur vos modalités de travail, coopération, collaboration au sein de votre classe. J'aurais une question aussi assez concrète que sans doute se posent les collègues, c'est la question de l'évaluation. Comment est-ce que vous évaluez en classe mutuelle? Est-ce qu'il y a par exemple une évaluation par les pairs, pardon, au sein de la classe, comme on a pu le voir par exemple avec Jean-Charles Caliez et sa classe renversée?
Alors, oui, ça c'est une question qui revient souvent, c'est souvent d'ailleurs des IPR qui la posent, peut-être vous avez des velléités de carrière. Non, alors, moi je distingue deux types d'évaluation. Il y a l'évaluation académique et l'évaluation non académique. Sur l'évaluation académique, j'avoue que très longtemps, je suis resté très sage, et vraiment dans les clous de ce que je faisais avant. J'ai des classes à examen avec le baccalauréat, et donc moi je me cale par rapport à l'examen terminal. Donc en termes d'évaluation, j'ai conservé l'usage, bien sûr, des devoirs sur table traditionnels, classiques. Après, il y a l'évaluation non académique. Alors, je ne fais pas comme Jean-Charles, participer nécessairement les élèves dans le cadre d'une évaluation de leur père. Par contre, cette évaluation, elle existe à chaque instant. Dès lors qu'un élève va aller expliquer une notion à un camarade, il va être évalué par son camarade. Et ça se voit tout de suite, les sourcils qui se froncent, « Non, là, je ne comprends pas ton explication, elle n'est pas bonne. » L'élève va pouvoir aussi s'auto-évaluer sur ce qu'il sait, sur la façon dont il a expliqué, est-ce qu'il a bien finalement compris la notion qu'il explique. Donc le fait de mettre les élèves en discussion les uns avec les autres favorise une évaluation, un retour, un feedback en fait de ce que l'on sait et de l'explication de ce que l'on sait.
D'accord, merci pour ces précisions. Et effectivement, dans ce cas-là, ça rejoint un petit peu ce que les élèves ont dit dans leurs interventions. Quand ils travaillent en groupe, effectivement, ils n'ont plus ce feedback instantané dont vous venez de parler, en tout cas moins fortement à distance, évidemment. Le froncement de sourcils, l'attitude qui ne comprend pas, ça, c'est peut-être le feedback qui leur manque actuellement en version distancielle. Merci.
Merci Vincent. Alors je vous propose qu'on se dirige gentiment vers la fin de cet enregistrement pour plusieurs raisons. Je pense qu'on a dit beaucoup plus que ce qu'on voulait dire dans un enregistrement qui devait être aussi un espèce de teaser pour donner envie et pour pouvoir surtout poser des questions lors du webinaire en direct à venir. Donc merci Vincent et merci aussi à Elina, Samantha et Kian qu'on retrouvera aussi. En tout cas, on retrouvera leur voix lors de ce webinaire en direct. Et je vous propose, une fois qu'on se sera dit au revoir, de diffuser une dernière partie de leurs interventions où ils nous présentent une anecdote, un moment particulier ou un souvenir marquant autour de la classe mutuelle. Je trouve que c'est peut-être une belle manière de terminer cet enregistrement.
Très bien. Merci Régis.
Merci à vous tous.
Un souvenir que j'ai de la classe mutuelle, c'était l'année dernière, quand on était en première. Je me rappelle qu'on devait faire un exercice qui était vraiment dur. C'était un calcul dur. Et avec mon groupe, on s'était donné à fond parce qu'il y avait un point en jeu. Et on s'était donné à fond, on avait cherché, on s'écoutait entre nous. Il y avait vraiment cet esprit de groupe qui nous a permis d'avoir le point. Et surtout de se dire, on travaille ensemble pour un même objectif. Donc c'est vraiment un souvenir qui m'est resté en tête.
Un moment qui m'a vraiment marqué durant un cours en classe mutuelle, c'était au début de l'année. Le professeur est arrivé, la classe était encore assez dubitative par rapport à la classe mutuelle, on trouvait ça assez nul, on comprenait pas vraiment le concept. Et le professeur est arrivé, il nous a dit de nous asseoir, il nous a dit qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui, comment vous voulez travailler aujourd'hui, vous pensez c'est quoi le plus optimal pour vous. Et vraiment, on est tous restés bouche bée parce que dans notre scolarité, personne ne nous avait jamais proposé de nous-mêmes trouver un moyen et comment on voulait travailler. On était toujours dans des cours magistraux à rester assis à écouter le professeur. Et je pense vraiment que c'est ça la différence. C'est que ça donne une responsabilité à l'élève qui lui donne envie de travailler. Il s'investit vraiment dans son projet et ça change vraiment tout parce que ça lui permet de vraiment se concentrer et vraiment de bien apprendre.
Pour l'anecdote... avec ma classe, c'est vrai qu'au début, on n'était pas très disciplinés et on parlait beaucoup, on faisait beaucoup de bruit pendant les classes mutuelles. Et Monsieur Fay, notre professeur, c'est vrai qu'il n'était pas très content. Mais après, c'est au fur et à mesure du temps qu'on a compris que c'était vraiment pour notre bien qu'on faisait ça et que ce concept-là était tellement mieux que les classes où on est assis en rang, on doit écouter, ne pas parler. Et on a appris à se discipliner. Tout seul et on a trouvé des techniques, des moyens pour faire moins de bruit. Et donc maintenant, jusqu'avant le confinement, la classe mutuelle, ça marchait vraiment super bien pour nous. On était tous très contents, les résultats étaient bons, on s'entraidait à merveille. Donc voilà.